Vous êtes sur RTL.
Et midi et demi.
RTL Midi.
Philippe Robuchon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Après la journée faste d'hier, moisson plus modeste aujourd'hui pour les Français à Tokyo. Deux médailles tout de même. La première en argent ce matin pour Florent Manaudou sur 50 mètres nage libre. La deuxième est imminente, elle sera en or ou en argent pour l'équipe de France masculine de Fleuret qui affronte la Russie dans un quart d'heure. En handball, défaite sans conséquence des Bleus battus par la Norvège. Et pour nos volleyeurs, première qualification de l'histoire pour les quarts de finale. On s'arrêtera également sur le naufrage qui continue pour la championne de gymnastique Simone Biles. Après avoir déjà renoncé à trois finales, elle renonce à celle du sol, prévue demain. L'américaine, quadruple championne olympique à Rio en 2016, est en train de craquer complètement, nous dira Isabelle Langer. Dans le reste de l'actualité, l'agence régionale de santé d'Occitanie qui lance un appel d'urgence à la population. En un mois, dans cette région, le nombre d'hospitalisations liées au Covid a été multiplié par 10. Nous irons dans le Beaujolais, où à cause des pluies, le mildiou, un champignon redoutable, menace les vignes. Et puis Juliette Chénion vous fera partager la toute première matinée d'une famille de vacanciers arrivés hier soir sur le bassin d'Arcachon. Dans un quart d'heure, chemin d'écrivain, le rendez-vous livre que vous propose Bernard Lehu. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Où va-t-on aujourd'hui ?
À Saint-Malo, en compagnie de la romancière Agnès Martin-Lugan, une vraie malouine.
À tout à l'heure Bernard. Le temps, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Je n'en revenais pas hein, ce matin quand j'ai lu ça, on est le 1er août et il a neigé sur les Pyrénées.
Alors ça arrive quand même assez souvent quand on a une petite baisse des températures et puis il a neigé à très haute altitude, au-delà de 2500 mètres. Ça a été le cas aussi la semaine dernière dans les Alpes.
Quand même.
Bon alors c'est vrai parce que les températures sont quand même assez basses. On avait des températures localement en dessous de 10 degrés ce matin, notamment dans l'Oise ou encore dans la région centre. Cet après-midi, ça ne va pas voler très haut non plus. 20 degrés à Lille et à Quimper, 21 à Dijon, 22 à Angoulême, 23 pour Paris et Limoges, 24 à Lyon, 28 à Nîmes et Toulon, 29 degrés quand même sur Bastia. Un ciel souvent assez chargé mais parsemé d'éclaircies. C'est pas totalement plombé quand même. Il y a des averses qui circulent un petit peu partout. On en trouve en Bourgogne, dans les Alpes, dans le nord, dans le centre ou encore en Dordogne. Le ciel tout bleu, c'est près de la Méditerranée. Mais il y a beaucoup de vent. Attention au Mistral et à la Tramontane qui vont souffler tout au long de l'après-midi.
C'est noté. Merci Valérie.
RTL à Tokyo.
On savait qu'il était un grand champion. Florent Manaudou l'a à nouveau prouvé ce matin, moins de 2 ans et demi après son retour à la natation. Il a raflé une médaille d'argent aux 50 mètres nage libre, derrière l'américain Dressel, intouchable. Épreuve dans laquelle Manaudou avait déjà glané 2 médailles en 2012 et 2016. Si l'on ajoute les autres courses olympiques auxquelles il a participé, sa moisson personnelle, 4 médailles, est impressionnante. Quand on pense que Florent avait arrêté la natation en 2016 pour se lancer dans le handball, on se dit que son retour est une sacrée performance. Écoutez Florent Manaudou avec Isabelle Langer.
Ouais, je suis hyper content. Je m'étais pas vraiment mis d'objectif en partant de France et en arrivant au Japon parce que je savais pas de quelle manière je pouvais aborder ces jeux et avec quel niveau de performance. Donc voilà, je suis rentré dans la compète avec un beau 4x100 où je fais un très bon temps. Et après, je passe les tours aux 50, c'est ce que je voulais faire et je voulais me battre en finale pour avoir une médaille comme les 7 autres mecs qui étaient à côté de moi. Et c'est incroyable de pouvoir décrocher une 4e médaille olympique. C'est que du bonheur parce qu'on est aussi des êtres humains. Vous nous voyez en grande compétition, mais c'est dur d'être sportif de haut niveau, de s'entraîner. Physiquement, c'est dur. Mentalement, c'est dur, surtout quand on a eu de bons résultats, on a gagné les jeux, la pression qu'on arrive à se mettre, elle est dure. Donc j'ai envie de stopper et je pensais vraiment pas à revenir après quand j'ai dit que j'arrêtais en 2016. Et l'envie de revivre des émotions a fait que je suis revenu et c'était un bon choix. Même si j'avais pas eu de médaille, ça aurait été un bon choix parce que ces 2 ans et demi ont été pleines d'émotions et il n'y a que le sport de haut niveau qui peut apporter ça, je pense.
Voilà, cette médaille de Florent Manaudou est la 20e dans le camp français. La 21e breloque devrait tomber dans l'heure qui vient en Fleuret masculin puisque l'équipe de France est qualifiée pour la finale face aux Russes à partir de 12h50. Nicolas Burnand, bonjour, vous êtes en direct de Tokyo.
Oui, les projecteurs sont allumés sur la piste dans cet immense hall des expositions de Tokyo. Les escrimeurs français vont faire leur entrée dans quelques minutes. Foulée ce tapis bleu brodé des anneaux olympiques. Enzo Lefort, médaillé d'argent à Rio avec Erwan Lepechou à 39 ans, ce sont ses derniers jeux. Et Julien Mertine, les Français ont réalisé un dernier échauffement de 2 heures, étirement, massage musculaire avec un kiné, passer du temps ensemble avant l'ultime assaut. Ça aussi, c'est important. Une partie de foot-tennis improvisée avant de répéter leur enchaînement. notamment Brice Guyard, le dernier Français champion olympique du fleuret par équipe, c'était à Sydney en 2000, a pu discuter avec eux.
Je les sens bien, ils sont très détendus. Ils vont prendre du plaisir à être ensemble et à être dans la difficulté aussi. On sait qu'en tout cas, chez les Français, ce qui fait la différence, c'est cette complicité. Parce que dans le match, il va y avoir des moments durs, c'est sûr. Et tous ces regards, tous ces moments de proximité qui comptent, c'est le jeu, c'est le combat qui va faire qu'à un moment, ils vont se transcender, ils vont se révolter. Et ils savent que c'est un exploit. Ramener l'or, c'est un exploit.
Difficile de faire des pronostics tellement cette équipe de Russie est différente de celle de la finale à Rio en 2016. Mais le combat promet d'être beau pour la dernière compétition de l'escrime français à Tokyo.
Dans un quart d'heure donc. Merci Nicolas Burnand. À retenir également de cette matinée à Tokyo, la qualification pour la première fois de l'équipe de France de volleyball pour les quarts de finale, malgré sa défaite 3-2 face au Brésil. En handball, défaite des Bleus face à la Norvège 32-29, mais elle est sans conséquence. Les Français étaient déjà qualifiés pour les quarts. En tennis, l'Allemand Alexander Zverev, sacré champion olympique après sa victoire en finale face au Russe Kachanov. Et puis la présidente du Comité national olympique français, Brigitte Henriques, confirme la volonté de contester la disqualification du boxeur français Mourad Aliyev. Aliyev éliminé par les juges chez les plus de 91 kilos pour avoir soi-disant donné des coups de tête à son adversaire, le Britannique Clark. La France dépose donc une réclamation devant le tribunal arbitral du sport. Et puis, pour refermer cette page olympique, impossible de ne pas revenir sur la descente aux enfers. Il n'y a pas d'autre mot de la championne américaine de gym, Simone Biles. Celle qui avait raflé 4 médailles d'or à Rio en 2016 est en train de s'effondrer totalement. Après avoir déjà renoncé à 3 finales la semaine dernière, elle a annoncé ce matin qu'elle renonçait à une 4e au sol, prévue demain. Visiblement, elle se sent trop fragile pour affronter la suite de la compétition. Après une mauvaise réception lors de l'épreuve du concours par équipe, mais aussi Isabelle Langer, à cause de sa grande fragilité psychologique.
Ah oui, c'est terrible. Pourtant, avant d'arriver au Japon, tous les voyants étaient au vert pour Simone Biles. Mais lors de son premier saut du concours par équipe, tout est parti en vrille, au sens propre comme au figuré. Le phénomène porte d'ailleurs le nom de twisties. C'est dangereux et redouté par les gymnastes. Ils perdent alors leur faculté à se repérer dans l'espace. D'ailleurs, l'américaine l'a parfaitement expliqué. J'étais censée faire 2 vrilles et demie et je n'ai réussi à en faire qu'une et demie avant d'être comme éjectée dans l'air. Le souci, Philippe, c'est qu'elle aurait pu gravement se blesser. Le phénomène est d'ailleurs arrivée à la Britannique Fragapan en avril dernier. Elle a frôlé la paralysie et lors des qualifications ici, elle a enchaîné les erreurs jusqu'à une réception sur la tête qui lui a valu une commotion cérébrale. C'est par peur de la blessure justement que Simone Biles a au départ renoncé à poursuivre cette épreuve par équipe. Sauf que depuis, c'est devenu un blocage et qu'elle n'arrive pour le moment pas à passer outre. Les médecins sont incapables d'en évaluer la cause exacte. Ça peut être un traumatisme d'une ancienne blessure, une mauvaise chute ou un mal-être extérieur. Dans le cas de Simone Biles, on peut l'expliquer par le fait d'être la tête d'affiche de la délégation américaine. Trop de pression. Mais aussi, on ne peut l'exclure, le traumatisme de faire partie des 265 gymnastes agressés sexuellement par l'ancien médecin de l'équipe des États-Unis, Larry Nassar.
Isabelle Langer à Tokyo pour RTL. Toute dernière info olympique ce matin, elle est triste également. En équitation, un cheval de l'équipe suisse a dû être euthanasié après s'être gravement blessé dans l'épreuve du cross du concours complet. Toutes les infos olympiques ce soir, je vous le rappelle, dans On refait les Jeux sur RTL à partir de 18h30. Dans un instant, la suite du journal, le nombre de contaminations au Covid continue d'exploser.
RTL Midi, Philippe Robuchon.
RTL Midi,
Philippe Robuchon.
Un avion médicalisé transportant 3 malades du Covid en réanimation a atterri cette nuit en métropole. Il était en provenance de Martinique, où vous le savez, un nouveau confinement a été décrété. Toutes les régions sont touchées à des degrés divers, outre-mer comme métropole. Ainsi, l'Agence régionale de santé d'Occitanie a lancé ce matin un appel à sa population pour qu'elle se fasse vacciner et qu'elle respecte au maximum les gestes barrières. La progression en Occitanie est fulgurante. En un mois, le nombre d'hospitalisations Covid a été multiplié par 10. Hier, 130 personnes étaient en service de soins intensifs. À cause du seul variant Delta, 4 des 5 départements d'Occitanie ont un taux d'incidence qui dépasse les 500 pour 100 000 habitants. Les Pyrénées-Orientales notamment à plus de 600, d'où l'appel tout à l'heure de Pierre Ricordeau, le directeur général de l'ARS Occitanie.
Nous n'arriverons pas à empêcher l'épidémie, mais nous pouvons la ralentir. Il y a urgence à agir. Et ce que je veux dire aux personnes qui résident aujourd'hui en Occitanie, c'est que respecter les gestes barrières, ça a un impact. C'est efficace. Tout le monde a quelque chose à faire en ce moment pour nous aider à ralentir l'épidémie et ralentir l'impact sanitaire de cette épidémie qui est vraiment très, très sérieux. La deuxième chose qui fonctionne et qui est la seule arme fatale contre le Covid, c'est la vaccination. La semaine dernière, nous avons battu des records et nous avons primo-vacciné l'équivalent de 5% de la population adulte de la région en une seule semaine. Et aujourd'hui même, et toute la semaine qui vient, des créneaux de rendez-vous ou des créneaux sans rendez-vous sont ouverts partout en région Occitanie.
Pierre Ricordeau, directeur général de l'ARS Occitanie, au micro RTL de Benjamin Pelsi. Notez que le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valtoux, demande lui carrément la vaccination obligatoire pour tous. Seule façon, selon lui, d'enrayer l'épidémie. Et puis hier, vous le savez, plus de 200 000 personnes ont manifesté partout en France contre l'extension du pass sanitaire. Le ministère de l'Intérieur a donné quelques chiffres ce matin. 72 interpellations dans toute la France, dont 26 à Paris. C'est l'une des conséquences du mauvais temps de ces dernières semaines, en particulier la pluie. Le mildiou a fait sa réapparition dans les vignobles. Plusieurs régions sont touchées, en particulier le Beaujolais. Le mildiou, vous le savez, c'est un champignon redouté par les viticulteurs. Écoutez par exemple Jérôme Lacondemine. Il est exploitant à Beaujeu, dans le Rhône. Sur 5 hectares et demi, il produit du blanc, du rouge, notamment du brouilly.
Alors le mildiou, c'est une attaque qui est due à un champignon ou une algue qui attaque la feuille d'abord et qui va faire dessécher la feuille. Et ensuite, à chaque pluie contaminatrice, les spores qui sont produits sous la feuille vont contaminer le reste. Et donc, à chaque pluviométrie, la pluie contamine le raisin notamment. Et nous, notre problème cette année, c'est que on a à peine le temps de traiter, qu'il faut recommencer. Aujourd'hui, j'estime, ça dépend des parcelles, mais j'estime entre 15 à 20% sur les moins touchés, jusqu'à 50% sur les plus touché.
Ça fait mal quand même.
Ça fait mal surtout après une période de gel historique en France et aussi une grêle qui a touché une partie du vignoble.
Jérôme Lacondemine, exploitant à Beaujeu dans le Rhône. Il était au micro de Bertrand Frachon. Dans un instant, on va faire un point sur vos conditions de circulation. La journée est nettement moins chargée qu'hier. Mais d'abord, parole aux vacanciers, aux heureux Aoussiens arrivés hier. Tous ne bénéficient pas de conditions météo parfaites, loin de là, notamment dans le bassin d'Arcachon où il faisait plutôt frisquet ce matin, Juliette Chénion.
Première étape pour Katia, l'office de tourisme. Elle en ressort une dizaine de brochures sous le bras.
Petite balade en mer, les randonnées cyclables, ce qu'on a prévu de faire du vélo avec les enfants, les marchés nocturnes, ça va faire du bien, on va en profiter.
Stéphanie et son mari découvrent la ville, la carte en main.
On doit aller faire une excursion à l'île aux oiseaux, ce repère pour aller à la jetée de Thiers. Et puis après, on va repartir, on va aller au lac de Cazaux l'après-midi, trouver le soleil.
C'est pas hyper bien parti.
Non, pas vraiment. Non, parce que le Calvados, il pleut, mais là, il pleut depuis hier. On espère avoir du beau temps.
Quelques courageux ont quand même posé la serviette sur la plage. Il y a de la place. Anne, cirée sur le dos, surveille les enfants.
Alors, les enfants, ils sont taqués sur les châteaux de sable. Eux, la pluie s'en fiche, hein, vous pouvez le voir.
On essaye de faire un barrage pour pas que l'eau elle sorte. Je crois qu'après, je vais à la dune d'Ipila.
Une balade au sec, peut-être, cet après-midi. Le ciel commence à se découvrir.
Bonjour Louis Augry.
Bonjour.
Sur les routes, comment ça roule ce dimanche ?
Eh bien, avec un petit peu plus de 400 km de bouchons sur le territoire à la mi-journée, on est loin des chiffres d'hier. Hein. Mais c'est surtout si vous vous dirigez vers le sud-ouest pour vos vacances que vous rencontrez plusieurs ralentissements. Ça commence dès l'Île-de-France. La circulation est rétablie après un accident au kilomètre 11 de la 10. Mais comptez encore 45 minutes pour traverser cette zone. Et vous allez multiplier ensuite les coups de frein du côté d'Orléans, Châtellerault et Niort. Au total, vous rallongez votre parcours de plus d'1h30 quand même pour atteindre Bordeaux depuis Poitiers. L'autre grande difficulté de la mi-journée, elle se situe en direction des plages méditerranéennes depuis la vallée de la Loire. Plus de 3 heures au lieu d'1h40 pour aller du sud de Lyon jusqu'à Orange et vous roulez au ralenti plus bas sur la 7 en arrivant sur Aix-en-Provence. Et puis un petit mot sur les retours quand même, il va falloir faire preuve de patience. Si vous remontez vers Orléans en passant près de Clermont-Ferrand sur la 71, vous roulez en accordéon sur une dizaine de kilomètres.
Merci. Deux mots de sport pour terminer. En football, le trophée des champions opposera ce soir Lille au Paris Saint-Germain, en l'occurrence le champion de France au vainqueur de la Coupe. La rencontre a lieu à Tel Aviv en Israël, mais sans les stars parisiennes Mbappé ou Neymar. Coup d'envoi 20h. En Formule 1, le Grand Prix de Hongrie cet après-midi. Lewis Hamilton, le Britannique, partira une fois de plus en pole position devant Max Verstappen. Hamilton tentera une 100e victoire en F1. À noter sur la grille de départ la belle position du Français Pierre Gasly, 5e. 12h45 sur RTL. Dans un instant, chemin d'écrivain. On va en Bretagne avec Bernard Lue.
RTL Midi, Philippe Robuchon. Voilà.
Chemin d'écrivain. Bernard Lehu.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce quatrième rendez-vous de l'été, je vous invite à rejoindre Agnès Martin-Lugan à Saint-Malo. Depuis son premier roman, Les gens heureux lisent et boivent du café, Agnès Martin-Lugan enchaîne les succès. Son dernier livre, La Datcha, figure encore dans les meilleures ventes depuis sa parution au printemps. Et c'est donc sur les remparts de la cité de Surcouf que nous attend Agnès Martin-Lugan, la Malouine.
Là, le temps est en train de se lever. Et on a la chance d'être sur le bastion de la Hollande avec les canons qui servaient à défendre Saint-Malo contre les Anglais. Et puis sur notre gauche, vous avez Dinard. Et puis surtout en face de vous, c'est le Grand B où est enterré Chateaubriand. Et puis derrière, vous voyez le Petit B qui encore son fort construit par Vauban.
Saint-Malo, on est chez vous, Agnès Martin-Lugan.
Oui, on est chez moi. J'y suis née, j'y ai grandi. J'en suis partie pour faire mes études, avancer dans ma vie. Et puis je suis revenue y vivre il y a 2 ans maintenant, avec ma petite famille. Le manque de Saint-Malo au quotidien et de la mer a été plus fort. Et puis je connais ma ville par cœur. Et pourtant je la regarde à nouveau avec des yeux d'enfant, de touriste. Du coup, et j'ai aussi la chance de maintenant pouvoir offrir cette enfance et cette adolescence à mes enfants.
Qu'est-ce qu'il y a de Malouin ou de Malouine en vous?
La résistance au climat. Non, je blague. C'est une ville tournée vers le monde, tournée vers le voyage. C'est une ville qui est en mouvement, en fait. C'est une ville qui vit toute l'année. Même au cœur de l'hiver, il y a un brassage, finalement, incessant. Il y a les bateaux qui rentrent, qui sortent du port. Et c'est finalement cette ouverture. Alors qu'on peut... Voilà, il y a tout ce qu'il y a autour des remparts qui fait c'est une ville close. Mais non, en fait, finalement, c'est une ville qui est ouverte sur le monde. C'est aussi l'histoire avec... Jacques Cartier, les corsaires, etc. Il y a quand même cette appétence pour le voyage, pour aller vers l'autre, pour aller vers la découverte.
Et elle existe chez vous aussi, cette appétence, et elle s'exprime peut-être d'ailleurs par justement l'écriture.
Oui, je pense, oui, forcément. Oui, cette ouverture finalement à essayer de comprendre et de découvrir tout le temps.
Alors là, du haut de ces remparts, on voit cette mer en mouvement perpétuel, l'écume sur les rochers. Est-ce que vous êtes sensible aussi à ce paysage typiquement marin?
C'est ce que je suis venue chercher en revenant vivre ici, la mer. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant comme élément. Puis elle est tellement vivante, elle le montre tous les jours, la marée. Enfin, voilà, on vit aussi ici avec la marée, avec les grandes marées. Dieu sait qu'on en parle des grandes marées de Saint-Malo, mais elle est là, elle fait du bruit. On a l'impression que, elle gronde, elle nous. Enfin, pour moi, elle nous parle en fait.
Agnès Martin-Lugan, alors on s'éloigne des remparts et vous nous emmenez où?
devant mon lycée, qui est donc du coup dans Intramuros.
C'est très chic.
C'est chic. Donc là, vous avez, alors, moi c'était l'escalier, ce petit escalier par lequel je montais quand il faisait trop mauvais Vous avez un petit peu plus bas la cour de la Housset, avec un endroit où la duchessane a habité. Ah. Et puis là, on va remonter. On va aller vraiment devant l'entrée du lycée.
Donc c'est un trajet que vous faisiez
tous les jours.
Pour
donc
aller
c'est pour
au
ça
lycée.
Que je disais tous les jours, je faisais presque mon tour de rempart. Que lorsqu'il commence à faire beau, au mois de mai, les pauses déjeuner se font sur la plage et qu'on commence à se baigner au mois de mai. C'est un cadre pour être lycéen quand même assez fabuleux. C'est une chance. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Ouais. Je me dis, on va passer par. Vous êtes devant le lycée, voilà, c'est tout ça.
Le lycée
qui s'appelle l'Institution de Saint-Malo, qui en lui-même, le bâtiment, est riche d'histoire. Enfin, vous voyez, il y a des chapelles classées, vous êtes près de la grande cathédrale, vous êtes imprégné de l'histoire quand vous êtes dans ce lycée-là, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens avec le recul aujourd'hui.
Ça doit développer un imaginaire aussi, non? Quand on est à la fenêtre et devant cette immensité, évidemment, de la mer, on doit rêver, l'esprit doit vagabonder.
Mais pour moi, c'est indéniable. Et je me rends compte aujourd'hui, finalement, avec le temps, que tout ça, je pense qu'avoir grandi dans ces endroits-là a participé forcément à travailler mon imaginaire.
Agnès Martin-Lugan, nous quittons donc Saint-Malo intramuros. Pour aller où?
Pour aller à Saint-Servant, qui est le quartier où je suis née, où j'ai grandi et où j'habite. Et on va aller rencontrer Patricia, qui tient la librairie Le Porte-Plume à Saint-Servant et qui me connaît depuis petite fille. Et chez qui j'ai fait ma première dédicace en 2013 avec les gens heureux, lui, c'est Bois du Café.
on y est, le porte-plume.
À bientôt.
Bonjour.
Bonjour madame.
Enchantée. Patricia, vous la connaissez depuis longtemps cette dame?
Je ne sais pas si on peut dire depuis le siècle dernier, presque. Alors Agnès, moi je l'ai connue petite fille venant acheter, j'étais dans une autre librairie papeterie un petit peu plus haut dans le quartier. Et donc voilà, Agnès venait acheter ses cahiers et ses stylos d'élèves appliqués dans cette librairie qui s'appelait Les Heures Claires. Et depuis 15 ans, moi je suis un tout petit peu plus bas dans ce quartier.
Et donc la toute première dédicace, ouais. c'était ici.
C'était ici. C'était en juillet 2013. Le roman a été sorti depuis un mois et demi en librairie. Et du coup, ma première dédicace a été chez Patricia. La table était là. J'avais mes livres et en même temps je me revoyais enfant parce que c'était Patricia qui était là aussi.
Et puis
aussi.
On n'a pas changé tant que ça non
plus. Non. On est les mêmes en fait.
Les librairies sont des lieux que vous aimez fréquenter d'une façon générale, alors hors fréquentation professionnelle, puisque vous y êtes beaucoup pour les dédicaces, les rencontres avec vos lectrices et lecteurs, mais sinon vous aimez ces endroits?
Bien sûr, oui bien sûr, et puis j'y emmène mes enfants et même si forcément avec les réseaux sociaux, je sais ce qui sort, c'est tout ça, mais rien ne remplace le fait de flâner dans une librairie et finalement d'être accroché par un titre, un roman, un auteur auquel on n'avait pas pensé. Et il n'y a que dans une librairie où on peut vivre ça.
Merci Patricia.
Merci, au revoir.
Alors, nous allons reprendre la voiture pour aller où, Agnès Martin-Lugan?
Pour aller à ce qu'on appelle la cité d'Alette, parce que je veux vous montrer quand même le point de vue et le paysage qui, à mon sens, fait partie des plus beaux du coin.
Alors, cette cité d'Alette, qu'est-ce que c'est? J'avoue que je connaissais Saint-Malo, mais pas du tout la cité d'Alette.
Le romain d'Alette, donc ça date, il y a des vestiges quand même qui datent de l'époque romaine et gauloise. Et c'est une balade, en fait, si vous voulez, ici, où on est au bout de Saint-Servant. D'un côté, on voit Dinard, de l'autre, on a pleine vue sur Intramuros.
Oui, donc on là, toute la vieille ville de Saint-Malo, elle est là, juste en face de nous.
Le port qui est entre, justement, la balade qu'on est en train de faire sur la cité d'Alette et Intramuros. Et c'est une balade en même temps qui est... c'est de l'hyper-nature dans la ville.
Sous les pins.
Et autant dire que j'avais la chance de pouvoir y aller même pendant le confinement. Et on part tout de suite très loin en fait, quand on peut se promener dans des lieux pareils, au milieu des arbres et avec la mer, et en même temps la vue sur l'histoire avec... Saint-Malo Intramuros en face, et cette aspiration au voyage avec tous les bateaux juste en dessous. Il y a ici tout ce qui, à mon sens, en fait, fait la richesse de cette ville.
On parle tellement d'histoire depuis le début de ce chemin que je me demande si un jour Agnès Martin-Lugan ne serait pas tentée par le roman historique.
Vous m'avez percé à jour. On va dire que c'est un de mes grands rêves en tant qu'auteur, en tant que lectrice. Le roman historique, ça fait partie de la littérature que je préfère. Et je trouve que mêler le romanesque à l'histoire avec un grand H, je trouve ça fabuleux. Donc après, j'attends aussi d'avoir un déclic sur une période particulière avec laquelle je sentirais un lien plus étroit et à développer, et des personnages aussi qui pourraient faire chemin jusqu'à moi. Mais
c'est tout trouvé, c'est surcouf.
Donc ça sera peut-être une autre période, une autre région, je ne sais pas, mais oui, un jour j'espère que j'aurai le courage de me confronter à cette envie d'écrire un roman historique.
Agnès Martin-Lugan, nous allons vers la dernière étape déjà de votre chemin d'écrivain à Saint-Malo, et on termine par
la plage du Sillon, et on va quand même descendre sur le sable.
La plage mythique de Saint-Malo.
La grande plage du Sillon, où on va quand même descendre sur le sable et s'approcher un peu de la mer.
Il est beau ce sable.
Il est doux.
Des souvenirs d'enfance, sans doute, non ? Des souvenirs de plage.
Des souvenirs de plage, et puis de château de sable, et d'attendre la marée montante pour voir l'eau qui détruit le château de sable, et puis des nouveaux souvenirs qui se fabriquent. Avec mes enfants aussi qui grandissent aujourd'hui sur cette plage. Là j'ai pris cette habitude-là. Quand je termine un roman et le jour où je l'envoie à mon éditrice, je viens prendre un grand coup de vent. Je le fais avec ma musique dans les oreilles, en général la dernière du roman. Et puis je marche une heure, parfois je pleure, je n'en reviens pas que ça soit fini. Et en même temps je veux pas que ça soit fini. Et en même temps je suis contente que ça soit fini. Mais il y a quelque chose qui défoule ici. Il y a le vent, il y a la mer, il y a l'iode. Ça stimule, ça réveille. Et en même temps, c'est de la bonne fatigue derrière. Donc, on en revient à notre début de conversation sur le rapport à cet élément aussi, qui est l'eau, en fait, et dont on a quand même beaucoup de mal à se passer.
En cours d'écriture, par exemple, vous venez aussi parfois marcher sur cette plage, vous venez recharger en quelque sorte les batteries pour poursuivre cet effort de l'écriture, qui est un effort souvent intense, en effet.
Oui, 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 c'est certes, il y a ce grand final une fois que c'est terminé, mais régulièrement, pendant l'écriture, je le fais, en fait. Que ça soit pour, j'ai des souvenirs de lendemain, pendant l'écriture de Nos Résiliences, où j'avais dû écrire jusque plus de 2h du matin, et j'avais eu l'impression le matin, en me réveillant, d'avoir la gueule de bois. Bah, je suis venue soigner cette gueule de bois ici, en fait, sur la plage, où j'ai marché pendant une heure dans le vent, et quand des fois ça bute, au contraire, bah, c'est pareil, en fait. Il y a un moment, il faut que je prenne l'air, en fait. Il y a quand même cette notion de prendre l'air. Même quand on habite ici, ben on sait que où est-ce qu'on va prendre le plus de l'air, ben c'est sur la plage. C'est encore mieux quand il y a du vent. Il y a une forme de lâcher prise aussi. Quand on regarde effectivement la ligne d'horizon, je trouve que ben on perd le contrôle aussi. C'est l'endroit où on peut se laisser aller. Et du coup, je pense que quand on se laisse aller, ben il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'imaginaire et de la création.
Et bien c'est ici, sur cette plage du Sillon, que votre chemin d'écrivain s'achève, Agnès Martin-Lugan. Et comme le veut la tradition dans cette émission, je vais vous demander de choisir une musique ou une chanson que vous associez à cette promenade malouine.
J'ai choisi Red and Black Light d'Ibrahim Malouf, un morceau d'Ibrahim Malouf. Quand je l'entends dans sa version originelle, on part loin. Moi, c'est ce qu'elle m'évoque, et je me dis que voilà, on a beaucoup parlé du voyage et de l'horizon, et que ça peut bien synthétiser notre chemin.
C'était Le chemin d'écrivain ou d'écrivaine d'Agnès Martin-Lugan à Saint-Malo. Son roman La Datcha est publié chez Michel Lafon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et sur l'application RTL. Dimanche prochain, nous irons à Toulouse en compagnie de Jean-Paul Dubois, le prix Goncourt 2019. Bel après-midi sur RTL.
Merci Bernard, à dimanche prochain.
RTL Midi, Philippe Robuchon. Faire.
13h. Ce qu'il faut retenir de l'actualité pour l'instant, ce dimanche, une seule nouvelle médaille française à Tokyo, médaille d'argent pour Florent Manaudou sur le 50 mètres nage libre remporté par l'Américain Dressler. Une seconde médaille est attendue dans la demi-heure qui vient. Elle sera d'or ou d'argent pour l'équipe de France masculine de Fleuret qui vient d'entamer sa finale face aux Russes. Pour l'instant, la France mène 8 touches à 5. Le comité olympique français a par ailleurs déposé une réclamation après la disqualification ce matin du boxeur français Mourad Aliyev pour un coup de tête porté à son adversaire, le Britannique Clark. Dimanche 1er août, début des vacances pour certains d'entre vous, l'heure du retour pour d'autres, mais pour tout le monde, l'heure des augmentations, notamment des tarifs du gaz, en moyenne plus 5,3%, et de l'électricité, plus 1,5%. Le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valtoux, demande au gouvernement de rendre obligatoire la vaccination pour tous. Ce matin, 3 malades du Covid venus de Martinique ont été transférés dans des hôpitaux de métropole. Le temps, Valérie Quintin, bah c'est toujours pas de saison.
Non, toujours pas. On a des températures un petit peu trop fraîches. Un soleil qui est encore assez présent entre deux averses quand même. Il fait assez beau à Paris, à Reims ou encore à Metz et à Angers. Les averses circulent d'ouest en est. Elles concernent essentiellement la Bourgogne, les Alpes ou encore le Massif central et le sud-ouest à l'heure qu'il est. Puis près de la Méditerranée, là, ce sera toujours un grand soleil. Mais attention au vent, Mistral et Tramontane vont souffler fort tout l'après-midi. Les températures, un petit 20 à Cabourg cet après-midi, 21 à Besançon, 22 à Toulouse, 23 à Paris, à Rouen, à Annecy, 25 degrés pour Perpignan, 28 à Ajaccio et 31 degrés malgré tout à
Nice.
Ça existe ? Oui, ça existe encore.
Merci Valérie. Il est 13h02 sur RTL. Les voix du crime, c'est dans un instant sur RTL. Diane Douzillet vous parle aujourd'hui de l'affaire des frères Jourdain.